Je suis très heureux. Mais nous sommes très contents d'être ici avec vous. Et tout d'abord, je remercie au Seigneur pour sa bonté qu'il nous donne de venir ici à Nantes et vous prêcher la parole de Dieu et partager ensemble notre foi commune à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne parle bien très bien le français, mais je vais essayer de vous parler très lentement pour pouvoir m'exprimer et que vous aussi puissiez me comprendre. Et je vous remercie aussi au pasteur Marcel parce qu'il nous a invités pour venir ici. Donc pour nous, c'est une belle opportunité de partager, de prêcher la parole du Seigneur et vous encourager dans le chemin du Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, verset 1. Le Seigneur nous dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Mon thème c'est ce qui signifie demeurer et porter des fruits étant unis au Christ. Nous retrouvons dans ce passage le discours de la vigne qui fait partie du discours prononcé par le Christ à ses disciples, juste après leur dernier souper ensemble. Nous avons 16 versets sur le thème de demeurer attaché à la vraie vigne, ce qui aura comme conséquence que nous porterons des fruits. Ces deux mots sont largement mentionnés par le Seigneur, ce qui nous indique leur importance. Demeurer, dit le Seigneur, demeure est mentionné 10 fois dans ces passages. Et le mot fruit est mentionné 8 fois. Donc on peut voir l'importance de ces deux mots. Et le mot « je suis le vrai cep » et le septième « je suis » que nous retrouvons dans l'évangile de Jean. Les « je suis » prononcés par le Christ sont la démonstration de sa divinité. Il a dit « je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie. » Je suis le chemin et la vérité et la vie. Et ici, nous avons le dernier « je suis ». Je suis le vrai cep. Il n'est pas surprenant que pour beaucoup de chrétiens, ce chapitre est leur préféré. Et dans un certain sens, il devrait être le chapitre préféré de nous tous. Car après tout, c'est un chapitre conçu pour les vrais croyants. Judas, celui qui a trahi Jésus, n'était plus là lorsque Jésus a prononcé ce discours. Nous lisons ceci au chapitre 13, verset 30, que Judas n'était pas là. Judas, ayant pris les morceaux, s'est hâta de sortir. Il était nuit. Donc il n'y a ici que les 11 disciples fidèles et selon les paroles du Seigneur Jésus. Ils étaient ceux qui avaient expérimenté une vraie conversion. Ce discours fait partie des dernières instructions de Jésus à ses disciples, la nuit même où il a été livré. Beaucoup suggèrent que ces mots ont été prononcés au même endroit où ils ont eu le dernier souper. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, dit le Seigneur. J'aimerais que nous prenions un moment pour lire Ésaïe, chapitre 5, s'il vous plaît. Car ce chapitre fait ressortir l'importance de l'illustration de la vigne que le Seigneur nous donne ici. Ésaïe, chapitre 5. Je vous encourage également à lire chez vous le psaume 80, où nous retrouvons la même idée que dans Ésaïe, chapitre 5. On va lire les versets 1 et 2. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en a remué le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit un tour au milieu d'elle et il creusa aussi en cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Dans l'épisode 80, verset 8, on nous dit: tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Donc, cette idée de vigne était bien présente dans la pensée israélite. En Isaïe, nous avons les fameux malheurs de Dieu qui sont prononcés par les prophètes contre la vigne d'Israël, la vigne du Seigneur, parce qu'il voulait qu'elle produise de bons fruits et que cette vigne n'a produit que des raisins sauvage. Les gens sont condamnés pour cela. Le Seigneur dit, il attendait donc de sa vigne de beaux raisins, mais elle a produit que des raisins à fait infect. Versets 3 et 4, qui, le Seigneur dit, maintenant donc, habitants de Jérusalem, et homme de Juda, soyez jugés entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Ce passage illustre la chute de l'homme, et aussi la chute des Juifs privilégiés. La vigne du Seigneur. Ils sont échoués, ils sont tombés. Et maintenant vient la vraie vigne, qui est le Christ. Il est venu depuis sa gloire céleste, afin de nous représenter et représenter nos âmes, et pouvoir vivre une vie parfaite devant le Père, qui est décrit comme le cultivateur. Et pouvoir aller au calvaire. Et pouvoir supporter la punition du péché en nous représentant. et pouvoir sauver un peuple qui mènerait à la gloire éternelle. Ce que dit le verset 15 de Jean. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. La vigne authentique, celle qui vient de Dieu, elle vit la vie parfaite et qui plaît au Père en toutes choses, représentant tous ses enfants, tout son peuple. C'est donc le début du chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Et j'aimerais pouvoir parcourir avec vous ce grand chapitre d'une manière générale et essayer de voir certains principes qui ressortent pour notre enseignement et notre exhortation en tant que branche de la vraie vigne et voir ce que signifie rester et porter des fruits en étant unis au Christ. Mais d'abord, voyons le verset 12. Nous avons, pour ainsi dire, notre premier point, un avertissement, mais aussi un encouragement. Verset 12. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Le Seigneur nous dit que nous sommes les branches, nous chrétiens, qui professons le salut. Mais on nous dit qu'il y en a qui ne portent pas de fruits et qu'ils sont coupés, sont retranchés. Et bien sûr, c'est la preuve que cette personne n'a jamais été sauvée, qu'il n'avait jamais appartenu à la vigne, car il n'y a pas de fruits en elle. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Puis il ajoute, verset 12, et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous vous rappelez que le Seigneur, en parlant de la parabole du semeur, nous a dit que la graine qui tombait sur une bonne terre donnait des fruits, une trentaine, une soixantaine, une centaine. Ainsi, les fruits sont la preuve de l'œuvre de la grâce dans la vie du croyant. Il nous est dit au verset 12, « Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ainsi, tout au long de notre vie, nous avons la discipline du Seigneur. Il discipline ses enfants et il les encourage. Il est souverain sur nos vies. Ce qui nous rend complètement dépendants de lui et qui a comme conséquence directe de nous faire porter de meilleurs fruits pour sa gloire. Le Père fait un excellent travail de nettoyage et de purification chez ses enfants afin qu'ils portent encore plus de fruits. Deuxièmement, on voit le besoin de demeurer constamment en lui, verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Remarquez que selon ce qui nous est dit ici, il est possible qu'un véritable sarment, parce que nous nous rappelons que cet avertissement est donné aux disciples. Souvenez-vous que Judas n'était plus là, mais seulement les 11 disciples, ceux qui appartenaient au Seigneur. Il était possible qu'un véritable disciple qui n'y sera jamais coupé et jeté dans le feu du jugement et brûlé. Mais il est possible que ces disciples, pendant un certain temps, ne restez pas dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a un avertissement ici. Le Seigneur nous dit, demeurez en moi. C'est un commandement. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, le mot grec qui se traduit par demeurer signifie rester, persévérer. Cela se limite à ce qui nous est dit ici. Demeurer en moi, il faut donc rester attaché au Christ. J'aimerais vous mentionner avant de poursuivre qu'il y a un enseignement qui existe depuis de nombreuses années et qui n'est pas très biblique. Il y a une tradition de faux piétisme qui a été raffinée par certains enseignants au XVIIIe siècle et qui capture encore l'imagination de nombreux chrétiens qui interprètent cela d'une manière très mystique. Il y a différentes manières d'exprimer cela, par exemple. Certains disent que d'une manière ou d'une autre, dans la vie chrétienne, il faut se projeter dans un état de relation avec le Christ sensoriel et mystique. Ils nous disent que le croyant doit se projeter dans une sorte de relation dans laquelle vous pensez ou imaginez ou croyez que vous avez une union avec le Christ et vous pouvez le ressentir. Bien sûr, c'est une interprétation mystique du passage. Frère, il n'y a pas d'union sensorielle spéciale où vous pouvez ressentir Christ. Mais l'union avec Christ se fait toujours par la foi. Et il est très important de nous les rappeler. Mais d'autres personnes nous disent, « Oh, il vous suffit de visualiser Christ et chaque fois que vous avez une tentation, ne luttez pas contre le péché. Laissez le Seigneur combattre pour vous et vous gagnerez la victoire sur vos péchés ou la tentation si seulement vous visualisez le Christ. » C'est une autre version d'une compréhension d'un lien mystique avec le Christ, mais que c'est faux. Regardez-le simplement avec les yeux de votre esprit. Contemplez-le, imaginez-le, et tout ira bien, disent-ils. Leur pouvoir va submerger cette tentation. Et vous n'avez rien à faire. Comme je le disais, il y a différentes façons d'exprimer cela, mais cela est faux. Nous ne pouvons pas ressentir Dieu ou le Christ, comme ces personnes le prétendent. Ce n'est pas ce que signifie rester en Christ. Pourtant, bien que nous ne partagions pas ces idées mystiques, nous devons dire ce qui suit. Nous avons des saints sentiments pour notre Dieu. Nous l'aimons, et nous sommes très heureux et joyeux quand nous savons que nous sommes à lui. C'est la réaction de notre cœur. Quand nous pensons à lui et à son œuvre merveilleuse dans notre vie, à notre faveur, lorsque nous savons que nous sommes à lui et que nous savons que sa puissance et sa bénédiction sont sur nos vies et que nous avons confiance en lui et que nous voyons sa fidélité sur tous les domaines de notre vie, nous sommes très contents. Alors, bien sûr, dans nos cœurs, nous ressentons un grand bonheur, une grande joie, une grande certitude, mais nous ne les ressentons pas de manière mystique. Nous les contemplons par la foi. L'apôtre Pierre dit ainsi, en parlant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, « Lui qui vous aimait sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, dit l'apôtre Pierre. Il n'y a aucun moyen d'avoir une union sensorielle, une union sensorielle avec lui, un picotement dans la colonne vertébrale, un drôle de sentiment dans la tête ou quelque part. Non. Mais nous avons une union avec lui par la foi, par l'Esprit de Dieu. Une véritable union avec le Christ doit nous conduire à une grande joie et à une certitude. Il est très important de garder à l'esprit la différence entre cette pensée mystique et ce que la joie de connaître le Christ nous apporte. Verset 11 nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. » Et que vous, votre joie soit parfaite. J'aimerais vous dire beaucoup de choses davantage, mais je vais me limiter à mon texte. Nous devons donc apprécier vraiment la joie que nous apporte connaître le Christ. Parce que le problème est que nous allons souvent à l'extrême opposé de ce piétisme mystique. Nous allons à l'autre extrême et nous n'apprécions plus rien, nous n'apprécions pas le Christ, nous oublions de prendre le temps de prier à différents moments de la journée pour contempler sa beauté. Des prières d'urgence, des prières d'action de grâce, des prières pour la guérison, des prières d'aide et de force pour témoigner, des prières constantes et courtes, évidemment aussi notant des prières établies. Et quand nous sommes en difficulté ou quelque chose ne va pas, nous oublions de les remercier. Que tout va bien pour notre âme. Que nous avons sa force et sa bénédiction et que nous pouvons aller à lui pour chaque situation qui vient à notre vie. Parfois, nous oublions ces choses. Alors, nous perdons cette partie de ce que signifie rester en Christ, qui est une appréciation constante et active de Christ que nous devons le prier pour que nous puissions recevoir sa force par la biais de la prière. Nous devons nous souvenir de lui, nous devons laisser son amour et ce qu'il a fait pour nous remplir d'inspiration. Demeurez en moi, dit le Seigneur, et je demeurerai en vous. Et lorsque nous lui donnons la place qui lui revient dans notre vie et que nous pensons à lui, que nous le prions et nous l'adorons et nous le louons et nous le remercions et nous le obéissons, alors il demeure en nous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Mais continuons à considérer d'autres versets du passage qui nous permettent de mieux comprendre ce que signifie demeurer en lui. Certains principes qui ressortent de ces grands passages, de ce que signifie porter des fruits en étant unis au Christ. Revenons au verset 3, s'il vous plaît. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. L'union avec le Christ, demeurer en lui implique la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas maintenir la communion avec le Christ sans lire constamment la parole de Dieu. Vous devez lire sa parole, l'étudier, la méditer, y croire et soumettre ta vie à cette parole. Frère, notre union avec le Christ et le fait de demeurer en lui dépend de comment nous utilisons la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu quotidiennement. Ceci est évident. Au verset 15, quel privilège nous avons ici. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Le Seigneur nous dit, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. À travers la parole de Dieu, nous connaissons les plans de Dieu. Nous pouvons en quelque sorte voir la pensée de Dieu. Mais dans beaucoup d'églises, on dit, par exemple dans les églises confessionnelles telles que l'Union Baptiste, parfois, on dit souvent, « Oh, nous croyons aux rencontres de l'Église, car dans ces rencontres, nous découvrons la pensée du Seigneur, la pensée de Dieu. » Mais, amis, cela n'est pas dans la Bible. L'Esprit de Dieu est dans la parole de Dieu, n'est pas dans une réunion d'Église. Et je parle des assemblées générales, où des rapports sont faits et des décisions sont prises pour le ministère et le travail de l'Église locale. Par exemple, j'ai entendu parler d'un pasteur qui aurait dû être plus sage. Il s'est vanté, pour ainsi dire, en disant qu'il avait un long pastorat et dirigeait son Église vers la voie progressive, de sorte qu'il utilisait dans les cultes de la musique contemporaine, et elle disait comment il avait réussi à faire passer tout cela à travers la réunion de l'Église et les votes de ses membres, de sorte que l'Église, selon lui, pouvait connaître la pensée du Seigneur à travers ses réunions d'assemblée locale où les décisions étaient prises. Mais nous nous demandons, la pensée du Seigneur pour faire ces choses? Où est la pensée du Seigneur dans toutes ces choses à un tel point que nous mettons de côté la révérence que nous devons au Seigneur pour faire entrer le monde dans l'Église? Quel langage insensé! L'Esprit du Seigneur est dans les Écritures, pas dans la réunion de l'Église. Certainement, les réunions de l'Église sont correctes. Mais l'idée d'une réunion d'Église est de chercher la pensée de la parole de Dieu. Les votes ne constituent pas la pensée du Seigneur. Vos opinions personnelles ne constituent pas la pensée du Seigneur, pas toujours. Qu'allons-nous écouter plus tard? Pourtant, il y a beaucoup d'Églises qui utilisent ces bêtises qui ne sont pas bibliques. C'est une vraie tragédie aujourd'hui. Cependant, ici, au verset 15, il nous est dit que nous sommes des personnes privilégiées, un peuple privilégié, parce que l'Écrit nous appelait ses amis. N'est-ce pas intéressant? Nous avons la joie de nous appeler serviteurs du Christ. Ça, c'est suffisant pour nous. Mais il ne nous appelait pas serviteurs. Il nous appelle amis. Et il nous révèle son plan, il le déploie devant nous, sa parole, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père, dit le Seigneur. Nous ne sommes pas dans la position où nous sommes appelés à faire des choses que nous ne comprenons pas, mais nous sommes informés de la manière dont nous devons nous comporter, évangéliser, comment agir, et on nous donne la raison, parce que ce sont les règles de Dieu. C'est sa volonté et c'est sa voix. Nous avons donc la parole de Dieu. Tout d'abord, nous devons être un peuple qui aime la parole de Dieu. Nous devons la lire pour maintenir notre union avec le Christ. Nous ne pouvons pas rester unis avec Christ si nous ne lisons ni obéissons sa parole. Bien-aimés frères, tu ne connaîtras pas beaucoup la parole si tu ne la lis pas. Je vous demande, Pourquoi laissez-vous d'écouter la parole de Dieu alors que vous avez beaucoup à apprendre et qu'il y a tant de choses merveilleuses à découvrir, à absorber et aussi à nettoyer dans votre vie? Ne laissez pas de côté la lecture de la parole de Dieu. Il est essentiel pour nous de maintenir notre union avec le Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. En examinant le contexte de ces passages, nous comprenons que la parole est l'outil par lequel nous demeurons en lui. Je voudrais revenir au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quel est le fruit dont on parle ici? À quoi fait-on référence? Bien sûr, ce sont les fruits qui proviennent de la nouvelle naissance. Fruits dignes de la repentance véritable. Le Seigneur dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est un triple fruit. Au fur et à mesure que nous avançons le Nouveau Testament, nous voyons que le Seigneur utilise trois choses différentes pour décrire ses fruits. Par exemple, dans Galates 5 et 6 et 22, nous avons les fruits de l'Esprit. Je pense que vous les connaissez. Où Paul dit, mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ensuite, en Philippiens 1, 11, les fruits font référence au caractère et à la sainteté. Paul dit, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et dans la lettre aux Hébreux, nous retrouvons les fruits de nos lèvres, ce qui est une louange et une reconnaissance constante à Dieu. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. L'état d'adoration spéciale et une louange constante au Seigneur tout au long de la journée. C'est un fruit aussi, le fruit de la louange de nos lèvres. Et quand on lit la lettre de Paul aux Romains, chapitre 1, nous voyons qu'il utilise l'illustration du fruit pour faire référence aux âmes. Il dit, je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, dit Paul. Et il nous dit qu'il n'a pas honte de prêcher l'Évangile et qu'il veut voir des fruits chez les Romains, tout comme le Seigneur lui a accordé dans d'autres endroits. Donc, on peut voir que c'est la triple utilisation du mot fruit dans la Bible, ce qui permet d'interpréter la Bible de cette manière, comme j'essaye de le faire en ce moment. Alors, quel est le fruit auquel fait référence en Jean 15? Parce que le Seigneur nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Caractère, les fruits du Saint-Esprit, caractère, louange, adoration, gagner des âmes, témoigner, évangéliser. C'est le triple fruit. Nous devons demeurer en Christ pour avoir cette force. Nous devons prier pour ces choses. Et nous devons nous préoccuper de cela et faire un effort consciencieux et réfléchir clairement à cela. C'est ça le fruit que le Seigneur veut que nous
ayons.
Et Ayant. Merci. Alors, eux dit au verset 5 qu'ils portent beaucoup de fruits. Cette pensée est consolidée au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors, rappelez-vous, caractère, sainteté, louange, témoignage et gagner des âmes. En cela, vous porterez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples, dit le Seigneur. Et au verset 16, aussi lisons, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Quelle chose merveilleuse. Le fruit que nous portons est un fruit qui reste, dit le Seigneur. Ainsi, nos combats pour résister au péché en cherchant l'aide du Seigneur lorsqu'il nous enlève cet égoïsme et l'amour pour les choses de ce monde, c'est un gain éternel. Lorsqu'il enlève tout autre péché, cela restera un fruit qui durera et qui durera jusqu'à la vie éternelle. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Prière. Donc, rester en Christ ne peut être maintenu sans la prière. Aujourd'hui, beaucoup de croyants croient en la prière et cela est prêché, mais nous devons reconnaître combien peu le peuple de Dieu la pratique. Pourtant, ici, nous avons cette promesse du Seigneur pour nous au verset 7. Quel est le contexte de cette promesse par rapport à la prière? Certaines personnes croient que nous pouvons sortir ces versets de son contexte en lui faisant dire que l'homme peut tout demander à Dieu. Par exemple, puis-je insister pour que le Seigneur me guérisse d'une maladie? Puis-je insister pour qu'il me donne de la richesse et de la prospérité? Puis-je demander tout ce que je veux? Ces personnes prennent les versets et les retirent de son contexte et les forcent à vouloir dire quelque chose qu'il ne dit pas, mais le verset a un contexte. Il se situe dans le contexte de rester dans la parole de Dieu et de s'y soumettre dans le contexte de porter des fruits, demeurer, rester en Christ, tel est le contexte. Donc, nous pouvons demander ce que nous voulons. Nous pouvons demander ce que nous voulons. Oui. Si cela améliore votre caractère et améliore votre sainteté. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez si cela augmente votre sincérité, votre fervor, si cela aide à l'adoration et la louange que vous offrez à Dieu. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez afin de vous aider dans votre témoignage et vous amener à porter des fruits pour le Christ. Mais il n'y a aucune autorité ici pour que nous essayions de forcer Dieu, pour qu'il nous guérisse. Il est certain que nous pouvons demander à Dieu pour notre santé. C'est vrai. Mais il n'y a ici aucune garantie ni obligation de la part de Dieu pour l'obliger à le faire, que ce soit la santé ou toute autre chose. N'oubliez pas de bien regarder le contexte de ce verset. C'est très important. Le contexte du verset dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et que tu réfléchis au Seigneur, que tu pries souvent et que tu lis sa parole et que tu as à cœur de porter des fruits pour lui et que tu veux des fruits de sainteté, de louanges constantes et d'action de grâce pour le Seigneur, et que tu veux être son témoin, alors tu peux demander et cela sera donnée en Condé. C'est une promesse merveilleuse. Mm-hmm. Et voici le verset 7, le verset de la prière. Nous pouvons demander ces choses et nous devons prier à des moments précis. Chaque jour, même pendant la journée, nous devons prier en cas d'urgence, rendre grâce, surtout si tu es troublé par quelque chose ou si tu es très déçu par quelque chose ou si quelque chose de très dur est arrivé, alors tu dois méditer et te rappeler des bénédictions et remercier le Seigneur pour ces choses. C'est ainsi que tu te retrouveras, que tu retrouveras en équilibre. Eh bien, je vous allez au verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Ici, il y a un autre aspect de ce que signifie rester en Christ. Être conscient de l'amour du Christ. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé de mourir dans mon amour. Je vous le demande. N'avons-nous pas une déclaration merveilleuse ici? Si nous méditons là-dessus, nous verrons que c'est merveilleux. Une déclaration merveilleuse. Comme le Père a aimé le Christ nous a aimé et nous aime. Réfléchissons sur ce point un petit moment. Bien sûr, le Père aime le Christ. Il est un avec le Christ. Et le Christ est un avec le Père. Il est glorieux. Il est digne de tout amour. Il est parfait, Christ. Il est saint. Il a une intelligence, une connaissance et une sagesse infinies. Alors, le Père aime le Christ. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous dit que le Christ nous aime. Et nous ne sommes certainement pas glorieux. Nous sommes des créatures déchues, avec une petite compréhension et une pensée très petite, toute douce souillée par le péché. Et nous sommes tellement égoïstes et insensés. Comment se peut-il que le Christ nous aime de la même manière que le Père l'aime? Nous devons nous arrêter et voir ce qu'il dit ici et voir que cela est si surprenant. Surprenant. Cela nous montre un peu l'amour de Christ, comment il a choisi d'aimer son peuple, le peuple pour qui il a donné sa vie, le peuple à qui il a assuré la justification et la glorification en son temps. Ce verset est merveilleux. Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur à la fin du verset 9. Comment fait-on cela? Nous devons réfléchir à cela, frères et amis. Vous devez y penser lorsque vous avez envie de quelque chose que vous n'avez pas besoin, quelque chose de banal, un certain plaisir du monde. Pourquoi ne pas penser à l'amour merveilleux du Christ jusqu'à ce que votre corps s'effondre? Alors, ce que vous n'avez pas besoin, vous ne le voudrez plus? Bien sûr que non. Comment demeurer en lui? Comment pouvons-nous continuer dans l'amour du Christ? Nous devons réfléchir à cet amour, nous émerveiller devant cet amour, lui rendre grâce et le louer pour cet amour. Nous savons le verset 10. Le Seigneur nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Qui nous parle de la sainteté et de l'obéissance comme preuve de notre amour pour notre Sauveur. Et puis, nous avons l'autre point, verset 12. Ceci, mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Qui nous parle d'amour envers les gens, de la famille, de la foi. Ceci, mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si nous pensons à cette déclaration, il s'agit d'une demande qui est bien au-dessous de nous, de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Nous ne pouvons aimer les gens plus que Christ nous aime. Comme il aime son peuple, et c'est le commandement qu'il nous donne de nous aimer les uns les autres. Je sais qu'il y a des problèmes avec cela lorsque parfois des croyants se comportent très mal et que l'amour de l'un envers l'autre est entravé. Cependant, frères, nous devons nous aimer en tant que famille du Christ et nous devons nous efforcer de le faire. Et nous devons décider de mettre de côté les suggestions de Satan quand il nous murmure des choses. Oh, il ou elle ne devrait pas être ainsi. Ou avoir dit cela. Ou avoir fait ceci ou cela. Satan nous encourage à penser que nous sommes justes à nos propres yeux et que nous devons critiquer les autres. Faites attention. Priez le Seigneur de vous aider. Soyez prudents. Soyez attentifs à ces choses parce que c'est un commandement spécifique que nous devons nous aimer les uns les autres, que nous prions les uns pour les autres, que nous encourageons les uns les autres, que nous soyons chaleureux les uns envers les autres. Parfois, les gens entravent l'amour. Parfois, nous rencontrons des gens très critiques envers les autres. On dirait que c'est presque naturel chez eux. Cet esprit de critique les a saisis et ils ont du mal à aimer quiconque. Mm-hmm. Peut-être une ou deux personnes, mais c'est tout, frère, que cela ne nous arrive pas. D'autres personnes sont froides par nature. Parfois, je me souviens d'un diacre qui était comme ça dans une église où je servais. Et franchement, je n'ai pas encore découvert comment guérir cela. Mais il faut essayer d'être chaleureux avec les gens. Essayer d'être chaleureux les uns avec les autres. Eh bien, certaines personnes pensent ne pensent pas qu'elles sont l'obligation d'avoir d'amitié. C'est dommage, car le Christ nous ordonne de nous aimer. Et cela commence par le désir d'être amical, d'être sensible et gentil les uns envers les autres. Nous sommes la famille du Seigneur et l'armée du Seigneur, et c'est ici un commandement spécial du Christ. Verset 17, ce que Dieu vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et je voudrais lire les versets 18 et 19 aussi. Si le monde vous hait, vous sait. Si le monde vous sait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous sait. La séparation du monde, finalement. Je ne développerai pas ce verset, mais je vais arriver à ma conclusion en disant que ce verset nous dit, si nous voulons demeurer en Christ, nous devons nous éloigner du monde. Nous devons être séparés du monde, de leur goût particulier, les systèmes déchus du monde et ses divertissements pécheurs. Nous devons être différents pour que le monde dise « Oh, nous les détestons car ils sont différents de nous. » Le Seigneur nous donne un avertissement ici. Donc, si nous voulons demeurer en Christ, nous ne pouvons pas en même temps être comme le monde. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a un grand effort pour gagner le monde. Et c'est bon. Mais le problème, c'est qu'il veut gagner le monde en devenant semblable au monde. Cependant, demeurer dans le Christ signifie que nous ne pouvons pas le faire. pour que nous puissions lui plaire et avoir sa bénédiction et porter les fruits au niveau de notre caractère et de notre louange, adoration et témoignage, nous devons être séparés du monde. C'est là notre obligation. Nous sommes une nouvelle société. Nous sommes une nouvelle nation. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons donc vu au verset 1, verset 2, comment il nous purifie à chaque étape de la vie. Nous avons vu le verset 4, le besoin de demeurer constamment en lui, uniquement par la foi. Nous avons vu verset 3 que nous utilisons la parole. Au verset 5, que nous portons des fruits. Verset 7, la prière. Au verset 9, le fait d'être conscient de l'amour du Christ. Au verset 10, sainteté, obéissance. Au verset 12, l'amour envers la famille de la foi. Et au verset 18, séparation du monde. Les promesses sont là. Nous les avons vues. Nous porterons beaucoup de fruits et nous continuerons à porter des fruits. Nous aurons des fruits qui resteront. Restons donc en Christ, toujours priant, loin, toujours méditant, toujours dépendant de lui et en lui servant toujours. Que le Seigneur bénisse chacun de nous aujourd'hui avec sa parole. Amen. Amen.